La guerre des Gaules, écrit par Jules César, traduit en 1926 par Léopold Albert Constance. Deuxième partie de 4 du livre 7. Cette lecture est extraite du Corpus Scriptorum Latinorum en date du 23 juin 2009. 23. Tous les murs gaulois sont faits en général de la manière suivante. On pose sur le sol, sans interruption sur toute la longueur du mur, des poutres perpendiculaires à sa direction et séparées par des intervalles égaux de 2 pieds. On les relie les unes aux autres dans la fondation et on les recouvre d'une grande quantité de terre. Le parement est formé de grosses pierres encastrées dans les intervalles dont nous venons de parler. Ce premier rang solidement établi, on élève par-dessus un deuxième rang semblable en conservant le même intervalle de 2 pieds entre les poutres, sans que, cependant, pour cela, elles touchent celles du rang inférieur. Mais elles en sont séparées par un espace de 2 pieds aussi, et chaque poutre est ainsi isolée de ses voisines par une pierre, ce qui la fixe solidement. On continue toujours de même jusqu'à ce que le mur ait atteint la hauteur voulue. Ce genre d'ouvrage offre un aspect varié qui n'est pas désagréable à l'œil, avec son alternance de poutres et de pierres, celles-ci n'en formant pas moins des lignes continues qui se couple à angle droit. Il est, de plus, très pratique et parfaitement adapté à la défense des villes, car la pierre le défend du feu et le bois des ravages du bélier, celui-ci ne pouvant ni briser ni disjoindre une charpente où les pièces qui forment liaison à l'intérieur ont en général 40 pieds d'un seul tenant. 24. Tout cela mettait obstacle au siège. Les soldats étaient, en outre, retardés dans leurs travaux par un froid opiniâtre et des pluies continuelles. Ils surent néanmoins, en travaillant sans relâche, venir à bout de toutes ces difficultés et, en 25 jours, ils construisirent une terrasse qui avait 330 pieds de large et 80 pieds de haut. Elle touchait presque le rempart ennemi. Et César, qui, selon son habitude, passait la nuit sur le chantier, exhortait ses soldats à ne pas perdre un instant, quand, peu avant la troisième veille, on remarqua qu'une fumée s'élevait de la terrasse. L'ennemi y avait mis le feu par une mine. Au même moment, tout le long du rempart, une clameur s'élevait, et les ennemis faisaient une sortie par 2 portes, de chaque côté des tours. D'autres jetaient du haut du mur sur la terrasse des torches et du bois sec. Ils versaient de la poix et tout ce qui était de nature à activer l'incendie. Il était difficile, dans ces conditions, de régler la défense, de décider où il fallait d'abord se porter et à quel danger il fallait parer. Pourtant, comme par ordre de César, 2 légions veillaient toujours devant le camp, et que des forces plus considérables travaillaient au chantier en se relayant, la défense s'organisa vite, les uns tenaient tête aux ennemis qui débouchaient des portes, les autres ramenaient les tours en arrière et faisaient une tranchée dans le terrassement, tandis que tout ce qui était au camp accourait pour éteindre le feu. 25. Le reste de la nuit s'était écoulé et on combattait encore sur tous les points. L'espoir de vaincre se ranimait sans cesse chez l'ennemi, d'autant plus qu'il voyait les mantelets des tours consumés par le feu, qu'il se rendait compte de la difficulté qu'éprouvaient les nôtres pour venir, à découvert, au secours de leurs camarades, et que sans cesse, de leur côté, des troupes fraîches remplaçaient les troupes fatiguées. Tout le sort de la Gaule leur paraissait dépendre de cet instant. Il se produisit alors à nos regards quelque chose qui nous parut digne de mémoire et que nous n'avons pas cru devoir passer sous silence. Il y avait devant une porte un Gaulois qui jetait vers la tour en feu des boules de suif et de pois qu'on lui passait de main en main. Un trait parti d'un scorpion lui perça le côté droit et il tomba sans connaissance. Un de ses voisins, enjambant son corps, le remplaça dans sa besogne. Il tomba de même, frappé à son tour par le scorpion. Un troisième lui succéda, et au troisième un quatrième, et le poste ne cessa d'être occupé par des combattants jusqu'au moment où, l'incendie ayant été éteint et les ennemis repoussés sur tout le front de la bataille, le combat prit fin. 26. Ayant tout essayé, et toujours sans succès, les Gaulois, le lendemain, décidèrent d'abandonner la ville. Vers Saint-Gétorix, les y exhortaient, le leur ordonnait. En tâchant d'effectuer cette opération dans le silence de la nuit, ils espéraient y réussir sans trop de pertes, parce que le camp de Vers Saint-Gétorix n'était pas loin de la place, et que le marécage qui formait entre celle-ci et les Romains une ligne continue retarderait la poursuite. Ils faisaient déjà leurs préparatifs, la nuit venue, quand soudain les mères de famille accoururent sur les places et, se jetant en larmes à leurs pieds, les supplièrent de mille façons de ne pas les livrer à la cruauté de l'ennemi. Elles et leur commune progéniture à qui la faiblesse du sexe ou de l'âge ne permettait pas la fuite. Quand elles les virent inflexibles, en général dans les cas de péril extrême, l'âme en proie à la peur reste inaccessible à la pitié, elles se mirent à crier toutes ensemble et à signaler aux Romains le projet de fuite. Alors les Gaulois, craignant que la cavalerie romaine ne leur coupât la route, renoncèrent à leur dessein. 27. Le lendemain, César fit avancer une tour et redresser les terrassements qu'il avait entrepris. Là-dessus, il se mit à pleuvoir abondamment, et ce temps lui parut favorable pour décider l'attaque, car il apercevait quelque relâchement dans la garde du rempart. Il dit à ses soldats de ralentir leur travail, et leur fit connaître ce qu'il attendait d'eux. Il réunit secrètement les légions en tenue de combat, en deçà des baraques, et les exhorta à cueillir enfin, après tant de fatigue, le fruit de la victoire. Il promit des récompenses pour ceux qui auraient les premiers escaladé le rempart, et donna le signal de l'assaut. Ils bondirent soudain de toutes parts, et eurent vite fait de garnir la muraille. 28. Les ennemis, effrayés par ce coup inattendu, furent chassés du mur et des tours. Ils se reformèrent sur le forum et sur les places, résolus à faire front du côté où viendrait l'attaque et à livrer une bataille rangée. Mais quand ils virent qu'au lieu de descendre lutter de plein pied, nos soldats les enveloppaient en occupant toute la muraille, ils craignirent de se voir ôter toute chance de retraite et, jetant leurs armes, ils gagnèrent d'un seul élan l'extrémité de la ville. Là, comme ils se pressaient devant les trois tissus des portes, nos fantassins les massacrèrent, tandis que ceux qui étaient déjà sortis tombaient sous les coups de nos cavaliers. Personne ne pensa au butin. Excité par le souvenir du carnage de Sénaboum et par les fatigues du siège, ils n'épargnèrent ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Bref, d'un ensemble d'environ 40 000 hommes, à peine 800, qui s'enfuirent hors de la ville au premier cri, arrivèrent sains et saufs auprès de Vercingétorix. Celui-ci, craignant que leur arrivée tumultueuse et l'émotion que leur vue provoquerait dans une foule impressionnable ne fût-ce cause d'une émeute, les reçut en pleine nuit et silencieusement, ayant pris soin de disposer sur la route à bonne distance du camp, ses compagnons d'armes et les chefs des cités, qui avaient mission de les trier et de conduire chaque groupe vers les divers quartiers assignés au début de la campagne à chaque peuple. 29. Le lendemain, ayant convoqué le conseil, il apporta aux siens consolation et encouragement, les invitant à ne pas se laisser abattre ni bouleverser pour un revers. Ce n'est point par leur valeur et en bataille rangée que les Romains ont triomphé, mais grâce à une technique, à un art des sièges qui ont surpris l'ignorance des Gaulois. On se trompe si l'on s'attend dans la guerre à n'avoir que des succès. Pour lui, il n'a jamais été d'avis de défendre Avaricum. Eux-mêmes en sont témoins. Le malheur est dû au manque de sagesse des Bituriges et à l'excessive complaisance des autres. N'importe, il aura vite fait de le réparer par de plus importants succès. Les peuples gaulois qui se tiennent encore à l'écart entreront par ses soins dans l'Alliance et il fera de toute la Gaule un faisceau de volonté commune auquel le monde entier même sera incapable de résister. Ce résultat, il l'a déjà presque atteint. En attendant, il est juste qu'il veuille bien, pour le salut de tous, se mettre à fortifier le camp, afin d'être mieux à même de résister aux attaques soudaines de l'ennemi. 30. Ce discours ne déplut pas aux Gaulois. On lui savait gré surtout de n'avoir pas perdu courage après un coup si rude, de ne s'être point caché ni dérobé au regard. On lui reconnaissait des dons supérieurs de discernement et de prévision, parce qu'il avait été d'avis, alors que la situation était entière, d'abord d'incendier Avaricum, puis de l'abandonner. Aussi, tandis que les autres chefs voient les revers diminuer leur autorité, lui, au contraire, après un échec, grandissait de jour en jour. En même temps, ces assurances faisaient naître l'espoir que les autres cités entreraient dans l'Alliance. Les Gaulois se mirent alors, pour la première fois, à fortifier leur camp. Le choc avait été si rude que ces hommes, qui n'étaient pas habitués au travail, pensaient devoir se soumettre à tout ce qu'on leur commandait. 31. Cependant, Vercingétorix, comme il l'avait promis, faisait tous ses efforts pour adjoindre à la coalition les autres cités et cherchait à en gagner les chefs par des présents et des promesses. Il choisissait pour atteindre ce but les auxiliaires les plus qualifiés, ceux à qui l'habitude de leur éloquence ou leur relation d'amitié donnait le plus de moyens de séduction. Il s'occupe, d'autre part, d'équiper et d'habiller les soldats qui avaient pu s'échapper lors de la prise d'Avaricum. Pour réparer les pertes de ses effectifs, il demande aux différents peuples de lui fournir un certain nombre de soldats, fixant le chiffre et la date avant laquelle il veut les voir amenés dans son camp. En outre, il ordonne qu'on recrute et qu'on lui envoie tous les archers qui étaient très nombreux en Gaule. De semblables mesures lui permettent de combler rapidement les pertes d'Avaricum. C'est sur ces entrefaites que Teutomatos, fils d'Olovico et roi des Nitiobroges, dont le père avait reçu du Sénat le titre d'ami, vint le rejoindre avec une forte troupe de cavaliers de sa nation et des mercenaires qu'il avait recruté en Aquitaine. 32. César demeura plusieurs jours à Avaricum, et y trouva une grande abondance de blé et d'autres vivres. Il permit ainsi à son armée de se remettre de ses fatigues et de ses privations. On était déjà presque à la fin de l'hiver. La saison invitait à se mettre en campagne, et d'ailleurs César avait résolu de marcher à l'ennemi pour le faire sortir de ses marécages et de ses forêts, ou bien l'y assiéger. Quand une députation de nobles éduins vient le trouver pour implorer son aide dans des circonstances particulièrement critiques. La situation est des plus graves. Alors que l'antique usage veut qu'on ne nomme qu'un magistrat suprême, qui détient pendant un an le pouvoir royal, deux hommes exercent cette magistrature et chacun d'eux se prétend légalement nommé. L'un est Convicto Litavis, jeune homme riche et de naissance illustre. L'autre est Cotos, issu d'une très vieille famille, jouissant d'ailleurs d'une grande influence personnelle et ayant de nombreux parents. Son frère, Valetiakos, a rempli l'année précédente la même charge. Tout le pays est en armes. Le Sénat est divisé, le peuple est divisé. Les clients des deux rivaux forment deux partis ennemis. Si le conflit dure, on verra les deux moitiés de la nation en venir aux mains. Il dépend de César d'empêcher ce malheur par une enquête attentive et par le poids de son intervention. 33. César pensait qu'il y avait des inconvénients à interrompre les opérations et à abandonner l'ennemi. Mais il savait aussi quels maux engendrent les discordes, et il ne voulait pas qu'une si grande nation ait si étroitement unie à Rome, que personnellement il avait toujours favorisé et comblé d'honneur, en vint à la guerre civile, et qu'alors le parti qui se croirait le moins fort demanda du secours à Vercingétorix. Il jugea donc qu'il fallait d'abord parer à cela, et comme les lois des Éduins interdisaient à ceux qui géraient la magistrature suprême de franchir les frontières, voulant éviter de paraître porter atteinte à la constitution du pays, il décida de s'y rendre lui-même, et il convoqua tout le Sénat et les deux compétiteurs à Decize. Presque toute la cité y vint. Il apprit que Cotos était l'élu d'une poignée d'hommes réunis en secret ailleurs, et à un autre moment qu'il ne convenait, que le frère avait proclamé l'élection du frère, alors que les lois interdisaient que deux membres d'une même famille fussent l'un du vivant de l'autre, non seulement nommés magistrats, mais même admis au Sénat. Il obligea Cotos à déposer le pouvoir et invita Convicto Litavis, qui avait été nommé conformément aux usages sous la présidence des prêtres, et alors que la magistrature était vacante, à prendre le pouvoir. 34. Cette décision étant intervenue, il exhorta les Éduins à oublier discussions et querelles, à tout laisser pour se consacrer à la présente guerre. Il leur promit qu'ils recevraient de lui, une fois la Gaule vaincue, les récompenses qu'ils auraient méritées. Il les invita à lui envoyer sans retard toute leur cavalerie et 10 000 fantassins qu'ils répartiraient dans divers postes pour la protection des convois de vivres. Il fit ensuite deux parts de son armée. 4 légions furent confiées à Labienus pour marcher contre les Sénons et les Parisii, et il mena lui-même les 6 autres chez les Arvernes vers la ville de Gergovie, en suivant l'allié. Il donna une partie de la cavalerie à Labienus et garda l'autre part. Quand Vercingétorix apprit ces nouvelles, il coupa tous les ponts de l'allié et se mit à remonter le fleuve sur la rive opposée. 35. Les deux armées se voyaient l'une l'autre et campaient généralement face à face. Et comme Vercingétorix disposait des éclaireurs pour empêcher les Romains de faire un pont et de franchir le fleuve, César se trouvait dans une situation fort difficile. Il risquait d'être arrêté par l'allié la plus grande partie de l'été, car ce n'est guère avant l'automne que, d'habitude, l'allié est guéable. Pour éviter qu'il en fût ainsi, César alla camper dans une région boisée en face de l'un des ponts que Vercingétorix avait fait détruire. Et le lendemain, il y demeura secrètement avec 2 légions, tandis qu'il faisait partir, comme à l'habitude, le reste de ses troupes avec tous les bagages, ayant eu soin de fractionner un certain nombre de cohortes pour faire croire que le nombre des légions n'avait pas changé. Il leur donna l'ordre de se porter aussi loin que possible en avant, et quand l'heure lui fit supposer qu'elles étaient arrivées au campement, il se mit à rétablir le pont sur les anciens pilotis, dont la partie inférieure restait entière. L'ouvrage fut rapidement terminé. Il fit passer les légions et, ayant choisi un emplacement favorable pour son camp, rappela à lui les autres corps. Quand Vercingétorix apprit la chose, craignant d'être obligé à livrer bataille malgré lui, il força les étapes pour prendre de l'avance. 36. César parvint à Gergovie en 4 étapes. Ayant livré le jour de son arrivée un petit combat de cavalerie et ayant reconnu la place, qui était sur une montagne fort haute et d'accès partout difficile, il désespéra de l'enlever de force. Quant à un siège, il décida de n'y songer qu'après avoir pourvu aux subsistances. De son côté, Vercingétorix avait campé près de la ville, sur la hauteur, et il avait disposé autour de lui les forces de chaque cité, en ne les séparant que par un léger intervalle. Tous les sommets de cette chaîne que la vue découvrait étaient occupés par ses troupes, en sorte qu'elles offraient un spectacle terrifiant. Ceux des chefs de cité qu'il avait choisis pour former son conseil étaient convoqués par lui chaque jour à la première heure pour les décisions à prendre ou les mesures à exécuter, et il ne se passait presque point de jour qu'il n'éprouvât, par des engagements de cavalerie auxquels se mêlaient les archers, l'ardeur et la valeur de chacun. Il y avait en face de la ville, au pied même de la montagne, une colline très bien fortifiée par la nature et isolée de toutes parts. Si nous l'occupions, nous priverions l'ennemi d'une grande partie de son eau et il ne fourragerait plus librement. Mais cette position était tenue par une garnison qui n'était pas méprisable. Pourtant, César, étant sorti de son camp au milieu du silence de la nuit, bouscula les défenseurs avant que l'on eût pu les secourir de la place et, maître de la position, y installa 2 légions. Il relia le petit camp au grand camp par un double fossé de 12 pieds de large, afin que même des hommes isolés puissent aller de l'un à l'autre, à l'abri des surprises de l'ennemi. 37. Tandis que ces événements se déroulent devant Gergovie, Convicto Litavis, cet éduin à qui, comme on l'a vu, César avait donné la magistrature suprême, cédant aux séductions de Laure Arverne, entre en rapport avec certains jeunes gens, à la tête desquels étaient Litavicos et ses frères, issus d'une très grande famille. Il partage avec eux le prix de sa trahison et les exhorte à se souvenir qu'ils sont des hommes libres et nés pour commander. Il n'y a qu'un seul obstacle à la victoire des Gaulois qui est certaine, c'est l'attitude des Éduins. L'autorité de leur exemple retient les autres cités. Qu'ils abandonnent les Romains, et ceux-ci ne pourront plus tenir en Gaule. Sans doute, il n'est pas sans avoir à César quelque obligation, quoique celui-ci n'ait fait après tout que reconnaître la justice de sa cause. Mais le désir de l'indépendance nationale est le plus fort. Car enfin, pourquoi les Éduins recourraient-ils à l'arbitrage de César quand il s'agit de leur constitution ? et de leur loi, plutôt que Rome à celui des Éduins. Le discours du magistrat et l'argent ont vite fait d'entraîner ces jeunes hommes. Ils se déclarent même prêts à prendre la tête du mouvement, et nos conjurés cherchent un plan d'action, car ils ne se flattaient pas d'amener les Éduins à la guerre si facilement. On décida que Lita Vicos recevrait le commandement des 10 000 hommes qu'on devait envoyer à César, et il se chargerait de les conduire, tandis que ses frères le devanceraient auprès de César. Les autres parties du plan sont également réglées. 38. On remit l'armée à Lita Vicos. Quand il fut à environ 30 000 de Gergovie, il réunit soudain ses troupes et, tout en larmes, leur dit « Où allons-nous, soldats? Toute notre cavalerie, toute notre noblesse ont péri. Des citoyens du plus haut rang, Eporedorix et Viridomaros, accusés de trahison par les Romains, ont été mis à mort sans qu'on leur eût permis de se défendre. Apprenez le détail du drame de la bouche de ceux qui ont échappé au massacre, car pour moi, qui ai perdu mes frères et tous mes proches, la douleur m'empêche d'en faire le récit. » On fait avancer des hommes à qui il avait fait la leçon, et il raconte à la multitude ce que Lita Vicos venait d'annoncer. Les cavaliers éduins ont été massacrés sous prétexte qu'ils étaient entrés en pourparlers avec les Arvernes. Quant à eux, ils ont pu se cacher au milieu de la foule des soldats et échapper ainsi au carnage. Une clameur s'élève, on supplie Lita Vicos d'indiquer le parti à prendre. Mais lui, « S'agit-il de délibérer? Ne sommes-nous pas dans l'obligation d'aller à Gergovie et de nous joindre aux Arvernes? À moins que nous ne doutions que les Romains, après un tel crime, n'accourent pas déjà pour nous égorger? Ainsi donc, si nous avons du cœur, vengeons la mort des victimes qu'ils ont indignement massacrées et exterminons ces bandits. » Ce disant, il désigne des citoyens romains qui s'étaient joints à lui, confiant dans sa protection. Il livre au pillage le blé et les approvisionnements dont il convoyait une grande quantité, et fait périr ses malheureux dans de cruelles tortures. Il envoie des messagers dans tout le pays des Éduins. Il provoque une profonde émotion par la même nouvelle mensongère d'un massacre des cavaliers et des notables. Il exhorte ses concitoyens à venger leurs injures de la même manière qu'il a fait lui-même. 39. L'Éduin, Eporedorix, jeune homme de très grande famille et très puissant dans son pays, et avec lui Viridomaros, de même âge et de même crédit, mais de moindre naissance que César, sur la recommandation de Divitiacos, avait élevé d'une condition obscure aux plus grands honneurs, s'était joint à la cavalerie éduenne sur convocation spéciale de sa part. Il se disputait le premier rang, et dans ce conflit des deux magistrats suprêmes qu'on a raconté plus haut, ils avaient lutté de toutes leurs forces. L'un pour Convicto Litavis, l'autre pour Lotos. Eporedorix, instruit des projets de Litavicos, vient, vers le milieu de la nuit, mettre César au courant. Il le supplie de ne pas souffrir que les desseins pervers de quelques jeunes gens fassent abandonner à son pays l'amitié de Rome. Ce qui se produira si tant de milliers d'hommes se joignent à l'ennemi, car leurs proches ne pourront se désintéresser de leur sort, ni la nation ne point y attacher d'importance. 40. Cette nouvelle affecta vivement César, car il avait toujours eu pour les Éduins des bontés particulières. Sans hésiter, il fait sortir du camp 4 légions sans bagages et toute la cavalerie. Et on n'eut pas le temps, dans des conjonctures si pressantes, de resserrer le camp, car le succès dépendait de la rapidité. Il laisse son légat, Laius Fabius, avec 2 légions pour la garde du camp. Ayant ordonné qu'on se saisît des frères de Litavicos, il apprend qu'ils viennent de s'enfuir chez l'ennemi. Il exhorte ses soldats à ne pas se rebuter d'une marche pénible que la nécessité impose. Tous le suivent avec ardeur et après avoir parcouru 25 milles, il aperçoit les Éduins. Il lance sa cavalerie, les arrête, les empêche d'avancer, mais fait défense générale de tuer personne. Il ordonne à Eporedorix et à Viridomaros, que les Éduins croyaient morts, de se mêler aux cavaliers et d'appeler leurs compatriotes. On les reconnaît, on découvre l'imposture de Litavicos. Alors les Éduins tendent les mains, font signe qu'ils se rendent et, jetant leurs armes, demandent grâce. Litavicos se réfugie à Gergovie, accompagné de ses clients, car, selon la coutume des Gaulois, il est impie, même si la situation est sans issue, d'abandonner son patron. 41. César envoya des messagers chez les Éduins pour leur faire savoir que sa bonté avait laissé la vie à des hommes que le droit de la guerre lui eût permis de faire périr. Puis, ayant fait reposer son armée pendant 3 heures de nuit, il se mit en route pour Gergovie. Il était à peu près à mi-chemin, quand des cavaliers dépêchés par Fabius lui font connaître quel danger le camp a couru. Des forces considérables ont donné l'assaut. Une relève fréquente remplaçait les troupes fatiguées par des troupes fraîches, tandis que les nôtres étaient obligés à un effort ininterrompu et épuisant, car, en raison de l'étendue du camp, les mêmes devaient demeurer sans cesse au retranchement. Une grêle de flèches et de traits de toutes sortes en avait blessé un grand nombre. Pour résister à cette attaque, notre artillerie avait été d'un grand secours. Fabius profitait de leur départ pour boucher les portes du camp, sauf 2, garnir la palissade de mantelets et se préparer à pareil assaut pour le lendemain. À cette nouvelle, César hâta sa marche et, grâce à l'ardeur extrême des soldats, parvint au camp avant le lever du soleil. 42. Tandis que ces événements se déroulent devant Gergovie, les Éduins, aux premières nouvelles qu'ils reçoivent de Litavicos, ne se donnent pas le temps de s'informer. La cupidité excite les uns, les autres obéissent à leur emportement naturel et à la légèreté qui est le trait dominant de la race et qui leur fait prendre un bruit sans consistance pour un fait certain. Ils pillent les biens des citoyens romains, ils tuent, ils emmènent en esclavage. Convicto Litavis encourage le mouvement qui se déclenche. Il excite le peuple, il le rend furieux pour qu'une fois souillé d'un crime, la honte l'empêche de revenir à la raison. Marcus Aristius, tribun militaire, était en route pour rejoindre sa légion. On le force à quitter Cavillonum en lui promettant sur l'honneur qu'il ne sera pas inquiété. On expulse aussi les Romains qui s'étaient établis dans la ville pour y faire du commerce. À peine ceux-ci s'étaient-ils mis en route, qu'on les attaque et qu'on leur enlève tout leur bagage. Comme ils résistent, ils subissent un assaut d'un jour et d'une nuit. Les pertes étant sérieuses des deux côtés, les assaillants appellent aux armes des bandes plus nombreuses. 43. Sur ces entrefaites arrive la nouvelle que tous les soldats éduins sont au pouvoir de César. Alors on se précipite vers Aristius, on explique que le gouvernement n'est pour rien dans ce qui s'est passé. On ordonne une enquête sur les pillages. On confisque les biens de Litavikos et de ses frères. On députe à César pour se disculper. Cette conduite leur est dictée par le désir de recouvrer leurs troupes. Mais ils avaient sur eux la souillure d'un crime. Ils étaient retenus parce que leur avait rapporté le pillage. Car beaucoup y avaient participé. Enfin, ils avaient peur du châtiment. Aussi se mettent-ils à se concerter en secret au sujet de la guerre. Et ils envoient des ambassades aux autres cités pour essayer de les gagner. César se rendait compte de ces manœuvres. Néanmoins, il parle aux députés avec toute la douceur possible, leur déclarant que, tenant compte de l'aveuglement et de la légèreté de la populace, il ne prend aucune mesure sévère contre la nation des Éduens et ne retire rien de sa bienveillance à leur égard. Cependant, comme il s'attendait à un grand soulèvement de la Gaule, voulant éviter d'être enveloppé par tous les peuples gaulois, il songea au moyen de quitter Gergovie et de rassembler à nouveau toute son armée, afin qu'un départ qui n'était dû qu'à la crainte de la défection ne pût avoir l'air d'une fuite. 44. Au milieu de ses pensées, il lui sembla qu'une occasion s'offrait de vaincre. Étant venu au petit camp pour inspecter les ouvrages, il remarqua qu'une colline qui était dans les lignes de l'ennemi était dégarnie de troupes, alors que les jours précédents, elles y étaient si denses que le sol s'en voyait à peine. Étonné, il s'enquiert auprès des déserteurs, dont il venait un grand nombre chaque jour. Tous font la même déclaration. Comme César l'avait déjà appris par ses éclaireurs, le revers de cette colline était presque plat, mais boisé et étroit dans la partie par où l'on accédait à l'autre côté de la ville. L'ennemi craignait beaucoup pour cet endroit, et il sentait bien que les Romains occupant déjà une colline, s'ils perdaient l'autre, ils seraient presque enveloppés et ne pourraient ni sortir ni fourrager. Vercingétorix avait appelé toutes ses troupes pour la fortifier. 45. Ainsi renseigné, César envoie vers la position, au milieu de la nuit, de nombreux escadrons. Il leur ordonne de se répandre de tous côtés en faisant du bruit. À l'aube, il fait sortir du camp un grand nombre de mulets chargés de bagages, les fait débâter et ordonne que les muletiers, coiffés de casques, prenant l'air et l'allure de cavaliers, fassent le tour par les collines. Il leur adjoint quelques cavaliers qui doivent, pour donner le change, rayonner largement. Par un long détour, ils se concentreront tous au même point. Les gens de la ville apercevaient au loin ces mouvements, car de Gergovie la vue plongeait sur le camp, sans toutefois qu'il fût possible, à une telle distance, de se rendre un compte exact des choses. César envoie par la même ligne de hauteur une légion, et après qu'elle s'est un peu avancée, il l'établit dans un fond où des bois la cachent au regard. L'inquiétude des Gaulois augmente et toutes leurs troupes sont acheminées sur ce point pour travailler au retranchement. Quand ils voient que le camp ennemi est vide, César fait passer ses soldats du grand camp dans le petit par petits groupes et, en ayant soin que les ornements des casques soient recouverts et les enseignes cachées, afin de ne pas attirer l'attention des défenseurs de la ville. Il révèle ses intentions aux légats qu'il avait mis à la tête de chaque légion. Il leur recommande avant tout de contenir leurs troupes, de veiller à ce que l'ardeur au combat ou l'espoir du pillage ne les emporte pas trop loin. Il leur explique les difficultés qui viennent de l'inégalité des positions. Seule une action prompte peut y remédier. Il s'agit d'une surprise, non d'une bataille en règle. Après quoi, Il donne le signal de l'assaut et lance en même temps sur la droite, par une autre montée, les Éduins. Fin de la partie 2 de 4 du livre 7.